Chapitre 12. Tout s'était enchaîné depuis que Lucie avait transféré à Mathis Mortier le rapprochement effectué dans le FNEG. Elle l'avait convaincu sans mal de la laisser s'occuper de cette partie des investigations consistant à interroger Emma Doty pour retracer l'historique de son col du fémur et ainsi identifier la victime du nécrophile. Charcot avait raison. Son chef temporaire se fichait bien de savoir ce qu'elle faisait de son temps et n'avait qu'une envie, rendre cette enquête dépourvue d'intérêt à son propriétaire. Cet obstacle franchi, elle avait ensuite agi dans les règles. Avec l'autorisation du magistrat chargé du dossier, elle s'était pointée à l'adresse présumée de Doty, avait constaté son absence, fait ouvrir sa porte par la vieille voisine et un autre témoin, ainsi que l'exigeait la procédure, et avait, à son retour au 36, dressé un rapide topo de ses prétendues découvertes, indiquant notamment que la jeune femme n'avait plus donné de nouvelles depuis 3 mois et était injoignable. Pour être dans les clous, Mortier avait donc avisé le substitut et confié à Lucie la mission de retrouver cette Emma Doty, afin qu'il puisse donner un nom au corps déterré dans les bois. L'aval du magistrat permettait d'utiliser tous les moyens nécessaires, perquisition au domicile, saisie d'éléments tels les ordinateurs, les clés USB, les répertoires téléphoniques, pour mettre la main sur la séroplasticienne. La lieutenant avait ainsi le champ libre, comme l'avait souhaité Charcot. Elle avait lancé différentes requêtes auprès des administrations et des opérateurs avant d'interroger l'otage. Dans la foulée, elle avait appelé Colin Manille, le gendarme d'Evreux à l'origine de l'enregistrement dans le fichier des infractions. Ce dernier, préférant ne pas divulguer d'informations par téléphone, avait en revanche accepté de la recevoir dans l'après-midi. Sans même déjeuner, Lucie s'était mise en route pour Evreux et avait profité du trajet pour tenter de nouveau de contacter Nicolas, inquiète par le silence qu'il leur imposait depuis le matin. Il lui avait répondu cette fois pour annoncer d'une voix brisée qu'Audra ne reviendrait plus, qu'elle était considérée comme morte et qu'une décision devait être prise pour la débrancher ou pas, parce qu'il y avait le fœtus. Il s'était mis à sangloter, bouleversant, et incapable de prononcer le moindre mot, avait raccroché. Lucie, elle, avait dû se garer sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute pour vomir. Puis, la boule au ventre, elle avait envoyé un SMS à Franck pour lui annoncer la sinistre nouvelle. À ce moment-là, elle aurait voulu se réfugier sous sa couette et pleurer à s'en crever le cœur, serrer ses enfants, son mari, leur dire qu'elle les aimait. Mais elle s'était retrouvée là, à des kilomètres de chez elle, à encore et toujours chercher des victimes, des criminels, interroger des gens, remuer la merde de leur vie. C'était son destin de flic. Un job qui souvent mettait ses émotions à rude épreuve, mais qu'elle avait choisi. Colin Manille était un vieux gendarme voûté, qui sentait la naphtaline et dont le nez couperosé suggérait un goût prononcé pour les repas bien arrosés. D'un premier abord sympathique, il l'accueillit dans son bureau avec un sourire de politesse que Lucie lui rendit avec peine. Il fallait à tout prix qu'elle retrouve sa concentration le temps de cette entrevue. Son confrère lui demandait d'exposer la raison exacte de sa visite, alors elle s'exécuta.
« Vous pensez qu'il lui est arrivé quelque chose de grave ?»
demanda-t-il quand elle eut terminé.
« Trop tôt pour l'affirmer, mais on essaie de comprendre qui elle était. » Et je crois que vous disposez d'éléments qui pourraient nous aider. »
Il se dirigea vers une cafetière, peu inspirante vu la couleur noirâtre incrustée sur le plastique du bec verseur.
« J'ai ressorti le dossier. Une drôle d'histoire pour tout vous dire. Un café ?
Ça ira, merci. »
Il se servit un mug plein et s'installa face à elle. Son bureau débordait de souvenirs, de médailles, de babioles. Des dossards de marathon ornaient les murs. Colin Manille avait sans doute été, à une autre époque, un grand sportif.
Ça s'est passé un matin à l'Institut médico-légal d'Evreux en mai dernier. Un médecin légiste qui avait été sollicité suite à la découverte d'un corps dans un canal et comptait se préparer tranquillement à l'autopsie, a remarqué qu'une fenêtre avait été fracturée sur le côté du bâtiment. Il est quand même entré, imaginant qu'il n'y avait plus personne, et est tombé nez à nez avec Emma Doty dans un couloir. Elle a alors tenté de prendre la fuite, mais le légiste l'a retenue, sans violence, jusqu'à ce qu'on débarque.
« Qu'est-ce qu'elle faisait là ?»
Elle prenait les dépouilles en photo. Enfin, on le présume.
Le cerveau de Lucie carburait à plein régime. Un os dans le cadavre des bois avait mené à Dottie. Cette dernière s'était volatilisée, mais auparavant s'était introduite dans une morgue de façon illégale. Existait-il un lien avec sa disparition ?
« Vous le présumez ?» répéta-t-elle.
« Elle était munie d'un appareil photoréflexe, mais on n'a jamais retrouvé la carte mémoire. En attendant notre arrivée, elle avait réussi à convaincre le légiste de la laisser aller aux toilettes. C'est sans doute là qu'elle s'en est débarrassée. De ce fait, on n'a pas pu l'inculper pour vol d'image ni pour atteinte à l'intégrité des cadavres. Mais une chose est sûre, elle avait parcouru les différentes salles, soulevé les draps, ouvert les tiroirs où reposaient les corps. »
Dans son mug, il trempa un spéculoos qu'il croqua avec gourmandise. L'hygiène implacable des marathons semblait désormais à des années-lumière.
« Pendant la garde à vue, poursuivit-il, elle a avoué avoir des pulsions morbides. Le genre de truc qui l'a poussée à aller dans les cimetières la nuit pour y observer les tombes. Histoire de renifler la mort, vous voyez le délire. Elle racontait avoir voulu essayer une morgue, observer de vraies dépouilles. »
Il termina son biscuit, but une gorgée de café.
On a fait une perquise chez elle. Vous avez dû voir tous ces moulages en cire.
En effet.
C'était glauque, mais il n'y avait là rien d'illégal. Elle a écopé d'une peine de 6 mois avec sursis et d'une obligation de soins psy, auquel elle s'est pliée, à ma connaissance.
Lucie jeta un œil au dossier que Colin Magny avait exhumé à son intention. Des dizaines de pages de procédure. Une soupe indigeste qui ne lui indiquerait pas comment retrouver Dottie. Elle releva les yeux vers le gendarme.
« Pourquoi précisément l'IML d'Evreux ? On est à 100 kilomètres de Paris.
»« Vous pensez bien qu'on lui a posé la question ? Elle a dit qu'elle l'avait repéré grâce à Internet. La plupart des IML sont intégrés dans des structures hospitalières, donc difficiles d'accès. Celui-là est un bâtiment indépendant et isolé. Aucun système de sécurité. » La mort est rarement un objet de convoitise. Cette Emma Dottie avait réponse à tout, lieutenant. J'ai souvenir d'une femme sûre d'elle, d'une grande intelligence, ce qui était d'autant plus surprenant. Mais vous le savez, en matière de criminalité, il n'y a pas de règles.
Lucie réfléchit, sceptique. La voisine lui avait expliqué que Dottie était une séroplasticienne reconnue, qu'elle excellait en anatomie et fréquentait les écoles de médecine. Vu son métier, elle avait déjà dû croiser des cadavres de multiples reprises, jugea-t-elle. Si elle souhaitait en voir, pourquoi n'a-t-elle pas simplement demandé à une de ses connaissances de lui ouvrir les portes d'une morgue ou celle d'une de ces salles où s'exercent les étudiants? Pourquoi risquer une effraction?
Je n'en sais rien.
À cet instant, elle remarqua une crispation sur le visage du gendarme.
Il y a un truc que vous ne m'avez pas dit.
Je vous ai tout dit. C'est une affaire classée, sans grand intérêt.
Lucie n'était pas dupe, mais elle estima qu'elle ne tirerait plus rien de cet entretien. Elle s'assura donc que le gendarme lui ferait parvenir les éléments du dossier en cas de besoin, se leva et le remercia. Au moment où elle s'apprêtait à franchir le seuil de la pièce, sa voix résonna dans son dos.
« Attendez !»
Lucie se retourna. Manny était debout, les mains à plat sur son bureau, l'air ennuyé.
« Refermez la porte derrière vous, s'il vous plaît. »
Sans un mot, elle obtempéra. Son confrère se dirigea vers une armoire métallique.
« Écoutez, ça m'embêterait de vous laisser repartir sans vous montrer quelque chose. Je ne sais pas si mon histoire pourra vous aider, mais c'est un rapprochement que j'ai fait bien plus tard en mettant de l'ordre dans mes papiers. Un cas étrange. Vraiment étrange. »